Mes réflexions sur le sujet dont on avait parlé dimanche, et donc j'avais commencé à parler du nom de l'Éternel, et vous avez expliqué donc les versets hein, qui servaient de fondement un peu à la réflexion. C'est dans Proverbes chapitre 18, versets 10 et 11, où il est dit: le nom de l'Éternel est une tour forte, le juste s'y réfugie et se trouve en sûreté. La fortune est pour le riche une ville forte, dans son imagination, c'est une haute muraille. Donc on avait vu le parallèle hein, entre le nom de l'Éternel et l'imagination du riche, et la tour, qui est une tour de sûreté pour le juste, comparée à une ville est forte et une haute muraille, et qui, il y a un sous-entendu là, qui en réalité est fragile. Et donc la clé pour le croyant, c'est de se réfugier et d'être en sûreté dans le nom de l'Éternel. Donc on voit là un principe important dans toute relation d'ailleurs, hein, mais dans la relation avec Dieu, c'est encore plus évident. C'est que au-delà des situations qu'on peut traverser, de ce que Dieu permet dans notre vie, ce qu'il empêche dans notre vie, les réponses à nos prières ou pas, mais notre relation ne doit pas avoir pour fondement ces choses-là. Le fondement de la relation, c'est la personne de Dieu, qui il est. À partir du moment où on a confiance dans une personne, et bien en réalité, c'est, rappelez-vous, la confiance, c'est la foi. Donc marcher par la foi, c'est pas évaluer les situations en disant ça c'est possible ou ça c'est pas possible, ça c'est acceptable ou ça ce n'est pas acceptable, ça j'en ai envie, ça j'en ai pas envie. Si on fonctionne comme ça, c'est pas une relation correcte avec l'Éternel en fait. C'est en fonction de ce qu'il nous donne ou de ce qu'il nous donne pas. En revanche, quand on a confiance dans le caractère de quelqu'un, d'un individu par exemple, même s'il peut y avoir des fois des malentendus, des problèmes, on peut aller au-delà beaucoup plus facilement parce que le fond de la relation, ce ne sont pas les événements que l'on vit qui importent en premier. Ce qui importe, c'est le caractère de l'autre, la personne de l'autre. Et avec l'Éternel, ça doit évidemment être, ça doit prévaloir, enfin, ça doit être évident, c'est-à-dire qu'on doit se réfugier dans le caractère de Dieu. Parce que, rappelez-vous, Paul nous dit qu'on ne doit pas marcher par la vue, mais marcher par la foi. Et donc, marcher par la foi, c'est la foi en Dieu. Et du coup, on va se réfugier dans le nom de l'Éternel. Et donc, je ne vais pas refaire tout le message, mais juste de bien comprendre que pour Dieu, ce que l'on pense de sa personne est très important. Mais il en est de même pour nous, hein. Je veux dire, on peut, je sais pas moi, imaginons que je fasse du sport avec quelqu'un ou que j'ai une relation commerciale ou autre. Je peux faire des choses très intéressantes avec cette personne-là, mais si je sais par ailleurs qu'elle pense du mal de moi, ça me convient pas. Quand bien même je peux me régaler dans le sport, voilà, il peut être même mon partenaire dans une équipe, mais si je sais que il doute de moi et de mon caractère, ou si moi je doute de son caractère, il y a quelque chose qui gêne, qui ne va pas, même si ce que l'on produit ou ce que l'on vit ensemble peut paraître correct. Mais avec Dieu, c'est exactement la même chose, et Dieu attend de nous, évidemment, qu'on lui fasse confiance et qu'il y ait voilà, une relation transparente avec lui. Et on peut pas se réfugier dans l'Éternel, il peut pas y avoir cette tour forte si on n'a pas confiance en lui. De la même manière, on va se réfugier entre guillemets, en tout cas on va se confier, on va demander de l'aide, on va s'ouvrir, peut-être même demander conseil aux personnes en qui on a confiance. Et donc on a confiance dans leur caractère, dans ce qu'ils sont, etc. Et la relation a été testée. Et on voit là l'importance que Dieu accorde ou attache à son au fait de son par rapport à son caractère, son nom. Et un verset qu'on connaît tous, hein, mais que j'aime bien rappeler, là, c'est dans Exode chapitre 20, verset 7. Exode chapitre 20, verset 7, il est écrit: tu ne prendras point le nom de l'Éternel, ton Dieu, en vain, car l'Éternel ne laissera point impuni celui qui prendra son nom en vain. Donc vous voyez, ça c'est intéressant parce que qu'est-ce que c'est que prendre l'Éternel, le nom de l'Éternel en vain? C'est faire dire à Dieu ou interpréter les choses au nom de Dieu, alors qu'en réalité, c'est notre propre personne qu'on met en avant. Et donc, on utilise le nom de l'Éternel et en fait, on y attache notre propre personnalité, notre propre caractère. Combien de fois, malheureusement, j'ai entendu des gens dire Dieu m'a montré, Dieu m'a dit, etc., etc. Et les faits ont contredit un petit peu ce qui, voire même totalement, ce que les gens ont pu confesser avec leur bouche. Et ça, c'est une manière de prendre le nom de Dieu en vain. C'est comme si c'était un passe-droit, si vous voulez. Et le problème, c'est que agir ainsi, c'est ne pas respecter le nom de Dieu, son caractère, et donc ça ne fait pas plaisir à Dieu. De la même manière, si on est dans une église légaliste, par exemple, où on met de côté toute la révélation néo-testamentaire de la parole de Dieu, c'est-à-dire la venue de Jésus-Christ, la miséricorde, le pardon, l'œuvre de la croix, s'aimer les uns les autres, aimer nos ennemis, toutes ces choses-là. Si dans une église, on met en avant uniquement, et ce ne sont pas des erreurs ou des mensonges, on peut parler de la sainteté de Dieu, on peut parler de la justice de Dieu, on peut parler de la colère de Dieu, toutes ces choses-là sont des fois tirées des Écritures. Le problème, c'est que ça ne correspond pas au caractère entier de Dieu, c'est-à-dire que ce qui est prêché, voire vécu, expérimenté, n'est pas, je dirais, il n'y a pas la totalité de la personne de Dieu qui est exprimée. De la même manière, ceux qui vivent dans l'antinomisme, à savoir que, bah, puisque Dieu est amour, puisque Dieu a payé pour nos péchés, finalement, si je fais le mal ou si je pêche, c'est pas si grave que ça, Dieu m'aime. Ce n'est pas prendre complètement le caractère de Dieu. Et donc, c'est utiliser le nom de Dieu en vain, c'est de faire de Dieu notre propre Dieu, ce qui en réalité est une idole. Et donc, nous avons besoin, dans notre vie, d'intégrer ce fait, ce point, c'est que marcher par la foi, c'est marcher selon le nom de l'Éternel, c'est-à-dire que j'ai une confiance en lui. Donc je sais, par exemple, qu'il peut me corriger, il peut amener des situations dans ma vie parce que Dieu est juste, parce que Dieu veut me voir grandir dans la foi, et si, comme le dit l'auteur de l'Épître aux Hébreux, quel est le père qui ne châtie pas son enfant? Donc j'intègre ça dans ma vie chrétienne. Et en même temps, j'intègre le pardon, j'intègre son intercession, j'intègre ses pensées de paix et non de malheur, j'intègre ses promesses. Donc tout ça, c'est vivre selon le nom de Dieu. Alors, de façon plus pratique, après, au niveau de la doctrine et de la parole de Dieu, c'est essayer autant que faire se peut, parce qu'en même temps, on est faible, on n'est pas parfait, mais c'est essayer de vivre de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. C'est ce que Jésus va dire, rappelez-vous, à Satan dans le désert, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Et lorsque on tend vers je dirais cet idéal de vivre selon toute la parole de Dieu, on commence alors à rentrer dans la plénitude du nom de l'Éternel. Alors c'est un apprentissage, évidemment, on apprend. Et on voit là, c'est assez fort, hein, en Exode 20, en plus c'est sous la loi, mais ce principe est à garder quand même en tête, même pour nous croyants du Nouveau Testament, c'est qu'on voit que Dieu dit textuellement, l'Éternel ne laissera point impuni celui qui prendra son nom en vain. Et donc je dois dans mes pensées, dans ma conversation, où je sois, intégrer le nom de l'Éternel. Alors, il y en a une définition là de la beauté du nom de l'Éternel et quelle est sa fonction, qu'est-ce que Dieu désire dans le fait qu'on va respecter ses attributs et son caractère. Alors pour ceux qui n'étaient pas là dimanche, je rappelle, hein, le nom de quelqu'un dans la Bible, ça parle aussi de sa personne et de son caractère. C'est pour ça qu'on voit beaucoup dans l'Ancien Testament le nom des croyants changer en cours de route, parce que dans leur processus de sanctification, Dieu leur fait changer de nom. Et donc, on voit que ce principe-là est important. Le nom de l'Éternel, ça parle de sa personne. Et Dieu dit là, dans la relation qu'il a avec Moïse, c'est lors de l'épisode du buisson ardent, lorsque Moïse rencontre l'Éternel au chapitre 3 du livre de l'Exode, il est écrit au verset 15, Dieu dit encore à Moïse, tu parleras ainsi aux enfants d'Israël, l'Éternel, le Dieu de vos pères, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob, m'envoie vers vous. Et regardez ça, voilà mon nom pour l'éternité, voilà mon nom de génération en génération. C'est intéressant. Alors, on sait qu'après, c'est un nom très impersonnel dans un premier temps. Dieu va se révéler de plus en plus durant le Pentateuque, où on va voir que le nom de l'Éternel, ça va être l'Éternel ma bannière, l'Éternel miséricorde. Enfin, il y a plein d'expressions pour parler de l'Éternel dans le Pentateuque. Mais là, il dit simplement ça. Voilà mon nom pour l'éternité. Voilà mon nom de génération en génération. Et là, ce qui est très intéressant, c'est que quel est le nom de l'Éternel en réalité que Moïse va devoir présenter au peuple? C'est un Dieu qui est fidèle, le même qui s'était révélé à Abraham, à Isaac et à Jacob, et qui n'avait pas oublié son peuple. Et de génération en génération, le peuple d'Israël va devoir se souvenir de ce fait. C'est lorsque Dieu a parlé à Abraham et que Dieu a fait des promesses, il allait être fidèle envers ses promesses, de génération en génération. Et donc, c'est de cette manière-là que Dieu veut que Moïse parle de l'Éternel à son peuple. Et en Exode 33, versets 17 à 21, on a aussi des précisions intéressantes. Exode 33, versets 17 à 21, l'Éternel dit à Moïse, « Je ferai ce que tu me demandes, car tu as trouvé grâce à mes yeux, et je te connais par ton nom. » Alors c'est intéressant, c'est que le nom de l'Éternel doit être respecté, et en même temps, Dieu dit à Moïse, moi, je te connais par ton nom. Et pour l'Éternel, ça voulait pas dire, ben, je sais que tu t'appelles Moïse. Ça, c'est très réducteur. En réalité, c'est, je connais ton cœur, je connais tes aspirations, je connais tes faiblesses, je connais tes qualités, je connais ton passé, je sais ce que tu as fait auparavant, je connais tes faiblesses. Tu m'as dit précédemment que tu avais du mal à parler. En fait, je te connais. Et ce qui est fou dans le nom de l'Éternel et dans le rapport qu'il a avec notre nom à nous, c'est que l'Éternel étant miséricordieux, lent à la colère, etc., peu importe la biographie de Moïse, qui n'était pas si fameuse que ça, rappelez-vous, hein, il a été meurtrier, très colérique, il a dû fuir. Et Dieu connaissait tout ça, il connaissait le caractère de Moïse, et pourtant il l'avait appelé. Et pourquoi c'est possible pour Moïse d'avoir été appelé par Dieu? Parce que dans le nom de l'Éternel, dans son caractère, il y a la bonté, il y a encore une fois la lenteur à la colère, il y a le pardon, la miséricorde, la vision aussi qu'il avait de l'œuvre accomplie, sachant que son fils un jour allait mourir à la croix et donc payer pour les péchés de Moïse. Et c'est ça qui est extraordinaire parce que, si je regarde un petit peu aujourd'hui ma relation avec Dieu, je connais mes faiblesses, je connais mes péchés, je sais peut-être ce qui ne va ou ce qui ne va pas, il y a peut-être même des domaines où je suis aveugle, je n'en sais rien. Mais qu'est-ce qui peut nous empêcher des fois d'avoir confiance en Dieu? C'est des fois notre manque de confiance en nous-mêmes. Je m'explique. C'est qu'on va vers Dieu et puis on tente d'aller vers Dieu et on se dit non mais attends, là Dieu connaît tellement, il connaît toutes choses, voilà ce que je suis pas digne. Il peut pas m'utiliser, il peut pas répondre à mes prières, ou il peut pas, voilà, je peux pas avancer avec Dieu, je suis coincé. Mais qu'est-ce qui nous rend comme ça? C'est que nous, on se connaît, on sait que Dieu nous connaît. Ce qu'on oublie peut-être, c'est qu'il nous connaît mieux qu'on ne croit, parce que Dieu peut voir des choses belles en nous que nous, on ne voit pas. Si je prends l'exemple de Jacob, on sait qu'il mentait, il trichait, il a vraiment fait du mal à son frère. Mais Dieu voyait la foi de Jacob au-delà de son comportement. Et Dieu connaissait Jacob. Donc il faut avoir ça à l'esprit déjà. C'est que Dieu nous connaît au-delà de ce que nous-mêmes on peut se connaître. Mais la deuxième chose qui est très importante à avoir en tête, c'est que, ok, je ne suis pas parfait, mais quand je me présente devant Dieu, si je me présente au nom de l'Éternel et en fonction de son caractère, je sais que tout ce que Dieu peut me proposer, va couvrir et compenser tous mes manquements. Imaginons que nous ayons un projet, je suis dans une relation d'affaires avec quelqu'un où la relation est saine, elle est bonne, hein, y a aucun problème, et on a une entreprise, et on veut aller plus loin, et on veut peut-être acheter, je sais pas, un bâtiment, acheter une autre entreprise, grandir, etc. Moi, je suis pauvre, je suis salarié de l'entreprise, mais je suis peut-être en partie propriétaire d'entreprise, mais j'ai pas une grosse fortune derrière moi. Mais mon associé, lui, est très riche. Et lui me propose certaines choses, lui a envie d'avancer. Et alors qu'on est à part égale dans l'entreprise, c'est-à-dire au niveau des actions, on a 50% chacun, mais au niveau de la fortune, lui est riche, moi je ne le suis pas encore. Imaginons que je dise à cet associé, mais non, on ne peut pas acheter l'usine parce que moi j'ai pas un sou. Mais lui va me répondre, mais moi j'ai les sous, je vais acheter. C'est-à-dire que celui qui a va pourvoir pour celui qui n'a pas. Et dans ma relation avec Dieu, c'est comme ça, c'est-à-dire que Dieu est saint, moi je ne le suis pas. Oui, mais il a pourvu à mon manque de sainteté. Dieu est juste, moi je ne le suis pas. Oui, mais il a pourvu à ma justice. Moi j'ai du mal à aimer mon prochain. Oui, mais Dieu est amour et il va m'aider à aimer mon prochain par la puissance de l'esprit. C'est-à-dire que Dieu veut nous donner tout ce qui contribue à la piété. C'est-à-dire que ce ne sont pas nos... Souvent, nous, on connaît notre nom, on connaît nos défauts, on connaît notre caractère, on connaît nos manquements. Et on vient vers Dieu comme si on devait être un associé à part égale. C'est-à-dire que Dieu est riche, soit, mais moi, il faut que j'amène au pot, hein, il faut que j'amène mes richesses. En réalité, on peut venir tout nu. Et quand Adam et Ève se sont cachés dans le buisson alors qu'ils étaient nus, Dieu leur a pas dit fabriquez-vous des habits. Dieu leur a pourvu aux vêtements. Et il a pourvu par la peau d'un animal. Et donc de la même manière, aujourd'hui, tout ce qui contribue à la piété, Dieu pourvoit tout ça en ma faveur, et grâce à l'œuvre de Christ, c'est-à-dire que je suis parfait en Christ, je suis pur en Christ. Je suis aimé en Christ. J'ai reçu les dons en Christ. Et ce qui est très, très important, c'est que c'est pas la connaissance de mon nom à moi qui compte. C'est la connaissance du nom de l'Éternel et de son caractère. Et donc, si je marche par la foi en ne prenant pas le nom de Dieu en vain, c'est-à-dire que oui, je connais mon Dieu, moi je me connais un petit peu, je sais qu'il y a des choses qui ne vont pas, mais j'ai confiance, non pas en moi-même, mais j'ai confiance en Dieu. Et donc, je continue le verset, donc je relis, hein, Exode 33, verset 17 et suivant. Je ferai ce que tu me demandes, car tu as trouvé grâce à mes yeux, et je te connais par ton nom. Moïse dit, fais-moi voir ta gloire. Et là, c'est intéressant parce qu'on voit que Moïse réalise qu'en lui-même, il ne peut pas voir la gloire de Dieu, mais il en a envie. Il veut la voir, cette gloire. Et donc, verset 19, l'Éternel répondit, je ferai passer devant toi toute ma bonté. Vous voyez, c'est intéressant. Qu'est-ce que la gloire de Dieu? C'est la bonté, c'est ce qui a trait à son caractère. Je ferai passer devant toi toute ma bonté, et je proclamerai devant toi le nom de l'Éternel. Je fais grâce à qui je fais grâce, et miséricorde à qui je fais miséricorde. L'Éternel dit, tu ne pourras pas voir ma face, car l'homme ne peut pas me voir et vivre. Et l'Éternel dit, voici un lieu près de toi, tu te tiendras sur le rocher. Et donc le rocher... On a l'interprétation de ce verset grâce à Paul dans 1 Corinthiens. Le rocher, c'est Christ, on le sait. Et pour nous, notre refuge, notre tour, si vous voulez, c'est Christ lui-même. Et lorsqu'on est caché en Christ, on peut voir la gloire de l'Éternel et ça plaît à Dieu de manifester cette gloire-là. Et quelle est-elle? Encore une fois, il dit... Je ferai passer devant toi toute ma bonté, je fais grâce à qui je fais grâce, miséricorde à qui je fais miséricorde. C'est-à-dire que Dieu avait envie de montrer cela à Moïse, de montrer cette bonté, cette grâce et cette miséricorde. C'est-à-dire que c'était le nom de l'Éternel qui allait se glorifier. Pour le dire d'une autre manière, Dieu se glorifie par exemple en créant les mondes. Quand on regarde les galaxies, les étoiles, la Terre, les planètes, c'est glorieux, les animaux, comment il a créé tout ça, la précision, la richesse, la beauté, c'est glorieux. Mais la plus grande gloire de Dieu, c'est la croix. C'est-à-dire que quand on regarde à la croix, c'est le nom de l'Éternel à son paroxysme. Pourquoi? Parce que vous avez tout. Bien entendu, dans la création, vous avez par exemple la puissance de Dieu, c'est évident. Oui, mais à la croix, vous voyez la puissance de Dieu qui est capable de nous délivrer de la mort et d'un jugement. C'est la puissance de Dieu. Et au-delà de cette, en plus de la puissance, il va y avoir encore une fois le sacrifice où il va pouvoir pour nos besoins, hein, où on avait besoin d'être sauvés, il va montrer son amour, il va montrer son pardon, Père, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. C'est-à-dire que Dieu s'est glorifié de cette manière-là, d'une manière extraordinaire. C'est comme si, quand Moïse s'est caché dans le rocher et il a vu la bonté, la grâce et la miséricorde, en fait, à Golgotha, on voyait, mais là, de façon, c'était mis à nu, on voyait la grâce, la bonté, la miséricorde. Rappelez-vous, Jésus, hein, ça signifie Yeshua, ça veut dire sauveur. Et donc, lorsque nous sommes à l'intérieur du rocher, lorsqu'on est caché en Christ, on apprend à connaître le nom de l'Éternel. Et donc, c'est comme ça qu'on va pouvoir avancer. Et trop souvent, on va vivre dans la culpabilité parce que nous associons notre expérience ou notre être, si vous voulez, ce que l'on connaît de nous-mêmes, au passé, on l'associe à des ressentiments peut-être, à de la négativité, à des regrets, à un esprit négatif. On ne pardonne pas à soi-même ou aux autres. C'est-à-dire que notre nom est souvent attaché à toutes ces choses. Mais la clé, là, c'est d'abandonner, de regarder différemment la vie, l'existence, et de se dire, mais je regarde à quoi, là? Je regarde à mon passé, je regarde aux gens qui sont autour de moi que j'ai du mal à aimer, je regarde à moi-même, je regarde à la situation économique, sociale, politique, je regarde à ces choses-là, ou je regarde d'abord à l'Éternel, c'est-à-dire à son nom, à son caractère. Et traverser les épreuves que nous sommes en train de traverser tous de façon, je dirais, presque communautaire, pas en tant qu'Église, en tant que peuple, nation, nous, en tant que chrétiens, qu'est-ce qui va faire la différence? C'est qu'on va continuer de regarder au nom de l'Éternel, c'est-à-dire qu'on nous, on n'abandonne pas. On a un Dieu qui ne nous lâchera jamais, et nous avons un Dieu qui n'arrêtera pas non plus de sauver. Et donc, on va avoir cette attitude-là. Vous savez, je discutais avec quelqu'un l'autre jour, où on parlait un peu de la situation, et puis je sentais la personne un peu énervée contre les autorités, contre, vous savez, enfin, je sais pas, il y en a des gens qui ont du mal avec le masque, il y a des gens qui ont du mal avec les interdictions. Bon, là, ça va pas, ils sont pas sortis d'auberge parce que il va y avoir une pression encore plus. Mais, alors, certains y voient un complot du diable pour nous empêcher de nous réunir, etc., etc. En admettant que ça soit vrai. Mais je veux dire, le complot du diable, il est pas là. Ce que les gens réalisent pas, c'est que ce que le diable veut surtout faire dans les églises et dans nos vies, c'est qu'on soit incapable d'aimer, c'est qu'on soit incapable de pardonner. Elle est là, la stratégie. Après, c'est des sous-points, c'est des stratégies là qui font du bruit peut-être, qui occupent l'esprit. Mais on pense aux apôtres, par exemple, au début de l'ère de l'Église, bien entendu qu'ils aient ils étaient persécutés. Bien entendu que le diable ne voulait pas que l'Évangile se répande. Et il faisait tout pour ça. Mais qu'est-ce qui a empêché, en réalité, enfin, le diable de réussir ses desseins? C'est parce que les disciples, quoi qu'ils traversent, continuaient d'être remplis de l'amour de Dieu. Ce qui fait qu'ils aimaient leurs ennemis, ils pardonnaient à leurs ennemis, même s'ils étaient abandonnés, ils continuaient d'aimer. La plus grande stratégie, du diable, c'est d'essayer d'enlever l'amour dans l'Église, d'enlever l'amour dans nos cœurs. Parce que quand il n'y a plus l'amour, il n'y a plus la gloire de Dieu, il n'y a pas le nom de l'Éternel dans toute sa plénitude. Et donc, nous sommes appelés à continuer d'aimer. On n'est peut-être pas d'accord avec la façon dont la vie se passe. On peut ne pas être d'accord avec certaines personnes. Ça, c'est notre responsabilité devant notre conscience et devant Dieu. Mais au-delà de ça, est-ce qu'on va continuer de s'aimer les uns les autres? C'est ça la clé. C'est-à-dire que la stratégie du diable, c'est d'empêcher les chrétiens, leur enlever la capacité de s'aimer eux-mêmes et d'aimer les autres. Elle est là, la stratégie. Et donc, c'est ça qu'il faut discerner. C'est pas simplement est-ce qu'on nous interdit de nous réunir ou pas. Bien entendu, le diable, s'il peut le faire, il le fera. On le sait. Dieu va tout faire pour freiner l'Église. Mais freiner l'Église, ça signifie quoi? C'est freiner le nom de l'Éternel, c'est freiner son caractère, c'est freiner ses attributs, c'est freiner sa gloire, c'est freiner sa personne. Donc c'est ça qu'il va le rechercher en premier lieu. Après, il utilisera des moyens. Alors, il peut utiliser la persécution, tout comme il peut utiliser l'abondance. Vous pouvez avoir des gens qui sont tellement, je dirais, gras matériellement, tellement riches, ils ont ce qu'ils veulent dans la vie, qu'ils en oublient l'Éternel, et donc l'amour s'étiole aussi. Donc, du coup, le diable peut utiliser les difficultés comme ce que nous on appellerait plus facilement les bénédictions, mais qui peuvent ne pas être des bénédictions parce que on va oublier d'aimer notre prochain, d'aimer nos ennemis, d'aimer les pauvres, d'aimer ceux qui sont dans le besoin, d'aimer ceux qui ne connaissent pas l'Éternel. Donc, la gloire de Dieu, c'est de manifester son caractère, de manifester son nom. Alors, en psaume 9, verset 10, il est dit, ceux qui connaissent ton nom se confient en toi, car tu n'abandonnes pas ceux qui te cherchent, ô Éternel. Ceux qui connaissent ton nom se confient en toi, car tu n'abandonnes pas ceux qui te cherchent, ô Éternel. Vous voyez la clé là, c'est que connaître le nom de l'Éternel engendre une confiance en lui. Vous voyez le lien entre la connaissance de sa personne et la foi? C'est très clairement écrit là dans ce psaume. Et pourquoi ce psalmiste a la foi? Parce qu'il connaît le nom d'Éternel, parce qu'il sait par expérience et par aussi la parole de Dieu qu'il n'abandonne pas ceux qui cherchent l'Éternel. Regardez ce qui s'est passé pour le peuple de Dieu. On a lu précédemment que Moïse devait être envoyé auprès du peuple, hein, il était dans le désert, il retournait en Égypte et annonçait la délivrance. Et Moïse, il a une question, je dirais, naturelle, pertinente. Il dit, n'oublions pas qu'il a tué un Égyptien, il a été vu par des personnes de son peuple, il a fui, donc il n'a peut-être pas une bonne réputation, et en plus, il a été absent pendant 40 ans. D'un seul coup, il va revenir à 80 ans, parce qu'il est parti de 40 à 80 ans, en disant, bah voilà, l'Éternel va nous délivrer. Donc Moïse, il dit, mais attendez, attends, Seigneur, comment ils vont croire, qu'est-ce que je vais dire, qui m'envoie? Et l'Éternel, donc, je l'ai lu tout à l'heure, hein, il dit, je t'envoie, tu leur diras, je suis le Dieu d'Abraham, Isaac et Jacob, m'envoie vers vous. Et pourquoi Dieu envoie Moïse à ce moment-là? Alors, d'abord parce qu'il voulait faire un travail dans la vie de Moïse, soit, mais parallèlement à ça, n'oubliez pas que le peuple s'est mis à crier vers l'Éternel. C'est-à-dire que pendant près de 4 siècles, petit à petit, ils ont été de plus en plus esclaves, de plus en plus asservis, et à un moment donné, cette épreuve a fait que ils se sont souvenus que leurs ancêtres avaient rencontré l'Éternel, qu'ils étaient le peuple élu par Dieu, et donc, ben voilà, il fallait peut-être l'invoquer. Et ils se sont mis à crier à l'Éternel, et qu'est-ce qu'a fait l'Éternel? Ben, il a répondu. Et là, c'est exactement ce que le psalmiste dit au verset 10 du psaume 9. Il dit, tu n'abandonnes pas ceux qui te cherchent. C'est-à-dire que l'Éternel est fidèle, ils ont commencé à crier à Dieu, et donc, à l'invoquer, qu'est-ce que Dieu a fait? Il a répondu. Et vous voyez ça tout le temps dans les Écritures. C'est phénoménal. Ça ne veut pas dire que la relation est toujours parfaite, hein. On va le voir d'ailleurs avec cette génération. Dans le désert, ils vont douter. Dieu va les châtier. Ils ne verront pas la terre promise. Ça ne veut pas dire que la relation sera toujours bonne. Mais Dieu n'abandonnera jamais son peuple. Ce qui fait que là, vous avez un exemple en Exode. Où le peuple crie, qu'est-ce que Dieu fait? Il envoie Moïse et il délivre. Mais après, vous lisez le livre des Juges, ça n'arrête pas. Ils désobéissent en permanence et en même temps, au bout de quelques années, ça dépend. Des fois, c'est dans un laps de temps très court. Des fois, ça peut prendre 40 ans, 50 ans. Ils se mettent à invoquer l'Éternel à cause de la difficulté de la vie et le fait qu'ils soient asservis à d'autres peuples. Ils se mettent à crier à l'Éternel et qu'est-ce que Dieu fait? Il envoie toujours un libérateur. C'est-à-dire que Dieu répond à chaque fois, c'est phénoménal. Et il n'abandonne pas. Et ce qui est intéressant, le piège dans lequel on peut rentrer, c'est de se dire, bah attends, prenons la période des juges. On a abandonné l'Éternel, ça fait 5 ou 6 fois qu'on lui fait le coup, on va quand même pas encore revenir à l'Éternel et l'implorer. Il va se mettre en colère, il va pas être d'accord, c'est pas juste, c'est un peu trop facile. Et bah ça, c'est mal connaître le nom de l'Éternel. C'est-à-dire qu'on peut toujours, toujours, toujours revenir à lui. L'Éternel est fidèle. C'est pour ça que c'est une tour forte. C'est extraordinaire. En 1 Jean 2,12, regardez ce que l'apôtre Jean écrit. 1 Jean 2,12, je vous écris, petits enfants, parce que vos péchés vous sont pardonnés à cause de son nom. Vos péchés sont pardonnés à cause de son nom, c'est-à-dire à cause de sa personne. Il est le pardon, c'est comme ça. Et donc, et en plus, Christ est mort pour pouvoir nous pardonner. Et donc, nos péchés ont été expiés. Et donc, si on confesse nos péchés, il nous pardonne. Moi, j'en reviens pas de la patience de Dieu et la miséricorde. Souvent, dans nos relations, on est un peu comme ça, que ce soit du juste vers l'injuste ou de l'injuste vers le juste. Des fois, le juste va dire, bah non, je vais pas lui pardonner une énième fois parce qu'il faut pas exagérer. Et l'injuste peut dire, ah bah, je vais pas lui demander pardon encore une fois parce qu'il va plus me croire. On a, nous, on a tendance à quantifier le pardon. Et c'est pour ça d'ailleurs que Jésus va bien enseigner aux apôtres, si vous devez pardonner vos ennemis, vous devez le faire à tout instant. Et Pierre dit, mais combien de fois? 70 fois, 7 fois. C'est pourquoi? Parce que c'est le nom de l'Éternel. C'est comme ça. C'est en permanence. Et quelqu'un qui est bloqué au niveau du pardon ne connaît pas correctement le nom de l'Éternel. Et alors là où il y a un piège, c'est que, admettons qu'on me fasse du mal, je veux pas pardonner parce que je vis selon ma justice propre, le bien et le mal, c'est pas normal, c'est trop, etc. Que va-t-il se passer? C'est moi qui suis à nu. Je suis plus dans la tour forte. C'est-à-dire que la blessure que j'ai vis-à-vis du mal que l'on m'a fait reste à vivre, c'est une plaie ouverte. Pourquoi? Parce que je ne suis pas couvert par la bonté de Dieu, je ne suis pas couvert par la personne de Dieu. Je suis ennemi de Dieu en faisant ça. Et donc, Dieu ne m'approuve pas. Et donc, je me retrouve sans cette tour forte. En revanche, même si ça, j'ai l'impression qu'on m'arrache les tripes à devoir pardonner encore une fois, je prends ma croix, je m'humilie, je dis « Seigneur, c'est pas juste à mes yeux, et en même temps, c'est juste puisque tu es mort pour ce péché-là. » Et donc, je confesse ton nom, je confesse ton pardon, je te demande de l'aide parce que moi, j'ai du mal, même si je suis la personne qui, normalement, est trahie ou à qui on a fait du tort, mais je décide de pardonner en ton nom. Et que se passe-t-il? Il y a une libération dans l'âme, c'est-à-dire qu'on se retrouve dans la tour forte. On est dans le caractère de Dieu. On est en train d'exprimer et d'expérimenter le caractère de Dieu. Et c'est comme ça que les problèmes dans les couples se règlent. C'est comme ça que entre générations, parents, enfants. C'est comme ça qu'au travail, les problèmes peuvent se régler. Je dis pas qu'ils se règlent concrètement des fois. Mais nous, dans notre cœur, on n'est plus à nu, si vous voulez. On est couvert par le nom de l'Éternel. Parce que on s'est confié en l'Éternel. Et donc, on est dans une tour sûre. On est dans une tour forte. Et donc, c'est se priver de bénédiction, bien entendu, que de passer à côté de l'Éternel. Donc, d'un côté, on a besoin de le connaître, ce nom, c'est-à-dire qui est Dieu, comment il est, comment il réagit devant telle ou telle situation. Et au moment du test, au moment où on a besoin de mettre en pratique, on le fait, on prend notre croix et on va vivre des choses, j'oserais dire même extraordinaires avec Dieu. C'est-à-dire une communion avec lui qui dépasse l'entendement. Lisons maintenant un passage dans Philippiens chapitre 2, versets 9 et 11. Ah, 11, pardon. Philippiens chapitre 2. Alors, je rappelle, Philippiens chapitre 2, c'est le chapitre de ce qu'on appelle la kénose, c'est-à-dire kénosis en grec, c'est-à-dire que Jésus-Christ s'est dépouillé. Il avait une forme de Dieu, et en tant que Dieu, il a enlevé cette forme pour prendre l'apparence humaine ou la forme humaine. Donc, il restait Dieu dans sa nature, à l'intérieur, mais il s'est dépouillé de ses prérogatives divines pour prendre une forme humaine. Donc, ça part du serviteur parfait. Et il est dit, donc, en Philippiens 2, versets 9 à 11, « C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé, donc après qu'il ait vécu cette vie de serviteur sur la terre, donc il l'a souverainement élevé, il lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom. » C'est extraordinaire, ça. Il lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom. Ça veut dire que Jésus est la personne la plus magnifique qui soit. Ses attributs sont les plus grands, les plus magnifiques. Et je dirais, je sais pas, ça nous paraît peut-être évident, oui, le Seigneur, il est au-dessus de tout. Mais c'est quand même beau d'avoir en tête que le Père a décidé de mettre Jésus au-dessus de tout nom, alors que Jésus, c'est notre Sauveur. C'est-à-dire que notre Sauveur est au-dessus de tout nom. Imaginons que ça soit notre juge. Le Père a mis au-dessus de tout nom le juge. Alors, Jésus-Christ va juger, d'accord, les impies dans les derniers temps. Mais dans notre relation, nous en tant que peuple de Dieu et notre relation avec lui, qu'est-ce qui est au-dessus de tout nom? Ce Sauveur qui sauve, enfin ce Jésus, ce roi des rois qui sauve, il est au-dessus de tout nom. Afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est le Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Et c'est ça qui est important à avoir en tête, c'est que le peuple de Dieu que nous sommes, c'est on adore Dieu, mais vous savez quand on adore une idole par exemple, C'est une idole morte, bien entendu, mais c'est très impersonnel, bien. C'est une évidence. Et l'idole est souvent attribuée à une seule fonction. Par exemple, lorsque vous, dans le panthéon grec, mais ça peut être aussi le cas dans l'animisme ou autre, vous avez une idole qui est en charge d'une chose. Alors, c'est l'idole de la pluie, l'idole pour la fertilité, le dieu de la mer, le dieu du ciel, le dieu du feu, le dieu de la guerre. Donc voilà, c'est une fonction. Nous, notre Dieu, c'est tout. Il est notre tout. C'est-à-dire que nous avons tout en lui. C'est-à-dire qu'on n'a pas besoin, nous, d'avoir plusieurs dieux pour couvrir tous nos besoins. Il est tout. Dans le nom de l'Éternel, nous avons tout ce qui contribue à la piété. En Zacharie chapitre 13, verset 9, il est écrit, en parlant d'un reste, vous savez, un reste du peuple, je mettrai ce tiers dans le feu, c'est-à-dire qu'un reste qui marche avec Dieu. Je mettrai ce tiers dans le feu et je purifie comme on purifie l'argent, je l'éprouverai comme on éprouve l'or. Il invoquera mon nom et je l'exaucerai, je dirai c'est mon peuple et il dira l'Éternel est mon Dieu. Donc voyez, dire que l'Éternel est notre Dieu, c'est invoquer le nom de l'Éternel. Et pourquoi Dieu, alors là il est parlé de la nation d'Israël, hein, pourquoi Dieu va purifier ce peuple, donc la purification, ça veut dire qu'il va y avoir des épreuves, etc. Pourquoi il va purifier son peuple et pourquoi parfois il est obligé de nous purifier? C'est pour que nous puissions voir le nom de l'Éternel dans notre vie, le caractère de Dieu, qu'on soit soumis à sa volonté, à son caractère. Rappelez-vous que Paul, alors je ne sais plus à quel endroit, je pense que c'est peut-être l'épître à Timothée, on doit être des bons intendants de Dieu. C'est-à-dire qu'un intendant, bah, c'est celui qui gère l'intendance, qui gère la maison, mais au nom du propriétaire. Et donc, on doit prendre nos décisions, des décisions devant les situations de la vie, devant les gens, en fonction de ce que Dieu veut. Et c'est ça, être un bon intendant des diverses grâces de Dieu. Et donc, nous avons reçu diverses grâces, mais ces diverses grâces que nous avons, ça peut être les dons de l'esprit, mais ça peut être aussi une situation économique, familiale, la vie que l'on a, le temps que nous avons, le tempérament que nous avons, voilà, tout ce que nous avons, est-ce que nous sommes des bons intendants de ce que Dieu nous a donné? Est-ce que nous gérons notre temps en fonction de la vision que Dieu a du temps, par exemple? Quand il nous est demandé de racheter le temps car les jours sont mauvais, est-ce que c'est cette vision-là que nous avons? Un autre, et c'est là où je terminerai parce que je veux pas faire plus long, là, mais j'ai déjà pas mal parlé. Mais le point, parce que j'ai d'autres choses à dire, mais on verra ça un peu plus tard. J'aimerais terminer sur ce dernier passage pour que vous compreniez bien aussi comment faire fructifier votre relation avec Dieu au travers de la vie de prière. En Jean 14, versets 13 à 15, Jésus a dit à ses disciples, tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai, afin que le Père soit glorifié dans le Fils. Si vous demandez quelque chose en mon nom, je le ferai. Si vous m'aimez, gardez mes commandements. Vous voyez ce qui est intéressant là? Souvent, une fois j'avais discuté avec quelqu'un qui était croyant depuis longtemps. Moi j'étais jeune converti et il avait changé d'église, donc il était venu dans la nôtre et il m'avait expliqué que il avait une mauvaise conception de l'expression du au nom de Jésus, parce qu'il y a des fois là il y a c'est le nom de l'Éternel, mais à d'autres endroits c'est au nom de Jésus. Et lui, il avait l'impression que c'était comme Alibaba et les 40 voleurs, vous savez, Sésame, ouvre-toi. Que faire les choses au nom de Jésus, ben, c'est comme avoir un Sésame, un passe-partout, qui permet d'avoir les choses. Et il y croyait même, il était honnête, il me disait, mais moi je pensais que quelqu'un dans une tribu, même s'il connaissait rien de la Bible, en Amazonie par exemple, mais si on lui dit crois au Seigneur Jésus et crois au nom de Jésus, je te baptise au nom de Jésus, bah la personne, elle était sauvée. Il ne comprenait pas que derrière le nom, cette expression, le nom de Jésus, ça voulait dire quand même connaître Dieu un petit peu, savoir qui c'est derrière ce nom. Et donc, il découvrait ça au travers de la parole de Dieu. Mais là, c'est un peu la même chose quand Jésus dit à ses disciples, tout ce que vous demanderez en mon nom, c'est-à-dire que nous le faisons en fonction du caractère de Dieu. Nous le faisons en fonction du caractère de Dieu. Par exemple, si... Vous savez, quand les enfants sont petits, enfin moi c'est des histoires que j'ai vues dans des films, mais ça a dû arriver en vrai, j'en sais rien. Mais vous savez, vous avez le fils aîné et puis vous avez le petit frère qui est un peu naïf, un peu candide, et le frère aîné sait que ses parents ne veulent pas qu'on fasse telle ou telle chose, mais il va faire croire au petit frère que les parents vont être contents. Donc il va dire, bah vas-y, fais ci, fais ça. Bah, qu'est-ce que fait le frère aîné là vis-à-vis du frère cadet? En fait, il utilise le nom de ses parents, mais ça ne correspond pas au caractère des parents. C'est pas la volonté des parents. Vous voyez? Et donc il fait faire une bêtise à l'enfant et les parents ne vont pas être contents après. Des fois même le petit il va être corrigé. Et c'est une injustice. Mais nous, c'est un peu la même chose. Est-ce que nous prions au nom de Jésus-Christ? Et encore une fois, je veux quand même équilibrer ça. On a le droit, bien entendu, de, je sais pas, on a envie de partir en vacances, se détendre. On a le droit de demander à Dieu des choses qui, a priori, ça va peut-être pas faire avancer le royaume de Dieu. C'est peut-être un peu personnel, mais on a le droit de demander des choses comme ça à Dieu, bien entendu, à condition que toute notre vie ne soit pas fondée sur nos besoins égoïstes. C'est ça le point. C'est-à-dire que moi, pour le coup, alors ça dépend des tempéraments, mais moi je sais qu'au niveau de mon tempérament, je n'ai aucune culpabilité avec Dieu sur ce sujet-là. Ma vie n'est pas parfaite, mais je sais quand même que je suis engagé avec Dieu, globalement. Je n'obéis sans doute pas à tout ce que Dieu me demande. Il y a besoin encore, ma vie est encore un chantier, il y a un processus de sanctification. Néanmoins, je sais que j'ai consacré ma vie à Dieu. Voilà. Et je parle pas en fait en termes de pasteur, hein. Je veux dire, c'est pas parce que je suis à temps plein. Parce que vous pouvez être à temps plein, soi-disant, dans un ministère, mais vous avez des pasteurs qui ont des fois des problèmes de couple, qui sont méchants, quand je dis méchants, mais impatients, colériques avec leurs enfants. Ils ont pas un degré d'engagement qui est correct par rapport à l'attente du peuple de Dieu. Donc c'est pas la fonction, le titre qui rend spirituel. Chaque personne dans l'Église peut être consacrée à Dieu de la même manière. Je veux dire, c'est pas un problème. Mais quand nous vivons, nous donnons notre vie et notre intérêt, c'est pour le royaume de Dieu, bien entendu qu'on peut se reposer par ailleurs, bien entendu qu'on peut lui demander certaines choses. C'est pas un souci, ça. Mais quand en permanence on prie au nom de Jésus, mais en réalité pour notre royaume, c'est là où ça va plus. C'est-à-dire que le nom de Jésus devient, encore une fois, comme une baguette magique, et ça devient comme les idoles animistes un peu. C'est-à-dire que j'ai besoin de ta protection, j'ai besoin de ci, j'ai besoin de ça. Alors que des fois, notre prière, ça pourrait être, Seigneur, qu'est-ce que tu veux que je fasse? C'est une belle prière, ça aussi. Vous voyez, Seigneur, donne-moi une réponse. Qu'est-ce que tu veux que je fasse dans cette situation? Là, je sais pas. On est le 14 octobre. Bah voilà, aujourd'hui 14 octobre, jusqu'à la fin de l'année. Les 2 mois et demi qui sont devant moi, Seigneur, qu'est-ce que tu veux que je fasse? La situation, elle est ce qu'elle est. Mais montre-moi s'il y a peut-être quelque chose que je peux faire pour quelqu'un, pour ta cause, pour changer quelque chose dans ma vie. En d'autres termes, avancer et demander au nom de Dieu. C'est-à-dire que moi, ce que je vais demander à Dieu, ça devrait être pour glorifier le caractère de Dieu dans ma propre vie. Et c'est pour ça que je le prie au nom de l'Éternel. Et je peux vous garantir, c'est pour ça que l'apôtre Jean dit par ailleurs, lorsque vous demandez selon sa volonté, il vous répondra. Mais c'est quoi sa volonté? C'est l'avancement de son royaume. Vous voyez? Donc, on est toujours dans cette même... dans cette même sphère, si vous voulez, dans cette même vérité, c'est que Dieu veut glorifier sa personne au travers de son nom, c'est-à-dire au travers de ses attributs, de son caractère. Moi, mon rôle, c'est d'être comme un vase de terre qui va apporter ce trésor auprès des autres, et c'est comme ça, que nous allons avancer dans la vie chrétienne. Vous voyez, les œuvres, c'est une chose, mais ça vient en deuxième. C'est la clé, c'est est-ce que j'ai confiance en Dieu? Est-ce que j'ai confiance en son nom? Est-ce que j'ai confiance en son caractère? Ce qui fait qu'après, s'il me demande des choses, bah peut-être que certaines ne me plaisent pas, mais j'ai confiance en son caractère, j'ai confiance en son nom, et donc je ne crois peut-être pas à la chose qu'il me demande, mais je crois en lui. Et parce que je crois en lui, je fais la chose qu'il me demande, et c'est comme ça que j'avance. Que Dieu vous bénisse.